Sri Aurobindo avait une personnalité extraordinaire. C'est quelqu'un qui tient un peu du génie. J'ai une pile de ses livres, ce n'est qu'une partie de ses ouvrages absolument fantastiques. En particulier des lettres qu'il écrivait aux membres de sa communauté, car il se tenait à l'écart, un peu comme un ermite. J'ai aussi des ouvrages sur les bases du yoga, le yoga dans le sens de la discipline personnelle pour permettre au divin de pénétrer l'homme. Petit ouvrage sur l'énigme de ce monde qui est très intéressant, un autre sur la vie divine. Et plusieurs tomes de ses œuvres complètes, en particulier un très beau sur la Bhagavad Gita. Ça vous dit quelque chose, la Bhagavad Gita? C'est un des ouvrages fondamentaux de la pensée de la religion hindoue. Bhagavad Gita, ça veut dire le chant du bienheureux. Quel beau titre, hein? Donc un poème sanskrit qui est un fragment de ce qu'on appelle le Mahabharata, qui est une épopée hindoue attribuée à un personnage légendaire, Vyasa, qui a vécu, on croit, entre le 15e et le 10e siècle avant Jésus-Christ, s'il a vécu. Et la Bhagavad Gita, elle date du 3e siècle. Mais il a aussi publié 3 Upanishads. C'est passionnant, je pourrais vous en lire des extraits, vous seriez émerveillés, puis métaphysique et psychologie, etc. Cette aventure spirituelle de Sri Aurobindo est vraiment l'une des choses les plus extraordinaires. C'est quelqu'un qui a tenté la synthèse de l'Orient et de l'Occident. Un soir de février 1910, il se trouve dans ses bureaux, les bureaux de son journal en Inde, et Sri Aurobindo est averti que les Britanniques qui dirigent l'Inde veulent l'arrêter une deuxième fois et le déporter aux îles Andaman. Il entend une voix, dit-il, qui lui dit « Va à Chandernagore ». Chandernagore, je vous le rappelle, c'est un nom qu'on entend dans des chansons parfois. C'est une ville de l'Inde, au nord de Calcutta, ville française, jusqu'en 1950, l'année de la mort de Sri Aurobindo. Aurobindo, c'est A-U-R-O-B-I-N-D-O. Et Sri, ça s'appelle de deux façons, S-R-I ou S-H-R-I. Mais qui donc est cet Aurobindo et pourquoi fuit-il? Et pourquoi obéit-il à des voix que nous, un peu sceptiques, on pourrait mettre en doute, hein? D'autre part, pourquoi les Britanniques veulent-ils s'attaquer à lui? C'est que 4 ans plus tôt, cet homme qui est né à Calcutta, qui ne connaît plus Calcutta maintenant que Mère Teresa a mis Calcutta sur la map, comme on dit en mauvais français, eh bien ce natif de Calcutta s'est plongé dans le mouvement nationaliste du Bengale. C'est un nationaliste comme Gandhi. Il a fondé un quotidien de langue anglaise, qui est le premier à réclamer l'indépendance de l'Inde. Oui. Il a fondé un parti extrémiste, dont les objectifs sont le boycott du commerce des denrées. Le boycott aussi des tribunaux, des écoles, des universités britanniques. Mais cependant, dans un discours prononcé à Bombay, il déclare déjà aux militants nationalistes, je cite son discours, « Ce n'est pas vous, c'est quelque chose en vous qui agit. Que peuvent tous ces tribunaux, tous les pouvoirs du monde contre cela, mais cela avec un C majuscule ?» En somme, il parle du divin de Dieu. Cela qui est en vous, cet immortel avec un I majuscule, ce non-né, non-né, éternel donc, cet impérissable avec un I majuscule encore, que l'épée ne peut percer, que le feu ne brûle point, la prison ne peut l'enfermer, ni la potence le détruire. De quoi auriez-vous peur si vous êtes conscient de lui qui est en vous? On croirait entendre parler un chrétien. Bien oui. C'est très beau, sa spiritualité, souvent. Évidemment qu'il tombe à certains moments, je l'ai remarqué dans ses lettres, dans la réincarnation, mais enfin. C'est donc un militant nationaliste qui a commencé, déjà, son yoga. Son yoga. Pas de la gymnastique, nécessairement, là. C'est autre chose. Si nous, occidentaux, nous sommes tentés de l'appeler un mystique, lui, il vient de l'athéisme à ce moment-là. Il n'est pas encore sûr, ne sera-t-il jamais, de croire en un Dieu tel que l'imagine la tradition judéo-chrétienne. Mais il n'en est pas loin. Le 4 mai 1908, 2 ans avant d'avoir entendu sa voix, la police l'a tiré de son lit. Revolver au poing, un magistrat britannique a été victime d'un attentat à la bombe, alors voilà. C'est-à-dire la bombe a été fabriquée dans le jardin où s'entraînent les disciples de Barine, qui est le frère de Robindo. Et si, après 1 an de prison, on l'a quitté, c'est qu'un étrange incident l'a protégé. Hein. C'est le seul témoin qui aurait pu fournir des preuves de sa culpabilité et entraîner sa condamnation à mort a été abattu d'un coup de revolver dans une des cellules voisines de celle où il a été enfermé. Mais son frère, placé dans la même cage que lui pour le plaisir des juges, se voit condamné, lui, à la potence. Mais il va en réchapper, toutefois. Alors, est-ce qu'il faut s'étonner qu'un homme comme ça, au pays de Gandhi, participe, semble-t-il, à des actions terroristes? Parce que Gandhi, hein, certains veulent voir dans Gandhi l'apôtre de la non-violence, déjà. Et à cette époque, Gandhi n'a pas encore fait son apparition à l'horizon de la politique indienne, vraiment. Hein. Le mouvement pour l'indépendance n'en est pas moins déjà très effervescent. Ça remue beaucoup en Inde. Et le premier grand leader de l'indépendance indienne a été Gokhale, qui répugne lui aussi à la violence. Il croit encore au compromis, à la possibilité d'une action démocratique, constitutionnelle, une entente avec les Anglais. Un autre, qui s'appelait Tilak, lui, n'y croit plus. Ou tout au moins, il en est arrivé à la limite, parce que les Anglais sont souvent très durs. Ce Tilak ne préconise pas la violence, mais la tolère. Il y a une ouverture, donc, vers la violence. C'est un esprit religieux, une sorte de saint. Il a recherché, dans la Bhagavad Gita, dont je viens de vous parler, la plus populaire des écritures sacrées de l'Inde, les fondements métaphysiques d'une action violente. Les fondements, donc, très articulés et très pensés d'une action violente et désintéressée. Et qu'a fait la Bhagavad Gita sinon commenter de manière poétique les propos terribles de ce qu'on appelle la Katha Upanishad? Je cite ce passage, c'est très étrange, on trouve ça dans les textes sacrés hindous. Hein. Si le tueur croit qu'il tue, si le tué croit qu'il est tué, ni l'un ni l'autre n'ont la vraie connaissance. Celui-ci n'est pas tué et l'autre ne tue pas. C'est très mystérieux, ces textes, et ça donne des ouvertures à des réflexions qui sont extrêmement dangereuses, à mon avis. Mais est-ce qu'on ne trouve pas dans la Bible aussi des choses étranges? Tout au long de sa carrière, Sri Aurobindo va confirmer d'ailleurs son opposition à une non-violence, qu'il juge, lui, une façon d'agir de la part de moralistes impuissants et de pacifistes débiles, dit-il. Lorsqu'en 1920, le fils de Gandhi vient l'entretenir des techniques d'action de son père, les techniques, vous savez, de s'asseoir par terre, ne pas réagir, la pratique de la non-violence, eh bien, Aurobindo lui réplique que, par cette question assez prophétique, « Que feriez-vous si demain les frontières du Nord séparant l'Inde de la Chine étaient menacées? » Et en 1940, alors que sur les bombardements de l'aviation allemande, Gandhi adresse au peuple anglais, il est rendu en Angleterre, hein? Il adresse au peuple anglais un message l'adjurant de ne pas résister par la violence aux attaques allemandes. Lui, Aurobindo, prend position aux côtés des alliés. Et il dit « La guerre et la destruction sont un principe universel qui gouverne non seulement notre vie, là, purement matérielle, ici-bas, mais même, ajoute-t-il, notre existence mentale et morale. » C'est drôle, la guerre et la destruction, ça dirige notre existence mentale et morale. Et c'est là qu'il va se diriger vers un mysticisme où il va faire la guerre à son moi pervers. L'homme, ajoute-t-il, ne peut faire un pas en avant sans une bataille. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres et des âmes sans tache pour que la loi de la bataille et de la destruction disparaisse du monde. Et il ajoute cette phrase étonnante, il faut d'abord que ce qui est à leur base disparaisse de l'humanité. Bien oui, il faut changer à la base. Et l'assassinat de Gandhi, les massacres ayant marqué aussi la partition de l'Inde lors de la proclamation de son indépendance, puis les grands transferts des populations, là, les millions de personnes que tout ça va exiger, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, moi je me souviens, là, c'était épouvantable en Inde, les transferts de population. Et tout ça témoigne de l'ambiguïté d'une attitude qui, malgré sa noblesse, demeure plutôt à la surface des choses, selon Sri Aurobindo, la non-violence. Parce que la non-violence demeure, selon lui, malgré son succès apparent, une des entreprises les plus discutables du XXe siècle. Et Sri Aurobindo, plus que Gandhi, avait été préparé au moralisme religieux, peut-être, mais c'est Gandhi qui en a fait le fondement de sa politique. Et c'est que ce moralisme, c'est moins indien qu'occidental, finalement. C'est d'Angleterre qu'il s'est répandu dans les couches dirigeantes de l'Inde. Or, Aurobindo, qui se moque, lui, des puritains anglais, en les appelant les pruritains, avait été envoyé en Grande-Bretagne faire ses études. Dès l'âge de 7 ans, il était accompagné d'une gouvernante et doté d'un prénom anglais, puis il va passer en Angleterre 13 ans de sa vie, n'apprenant qu'à 20 ans sa propre langue, le bengali. Il a assimilé le français, le grec, le latin, l'italien, l'allemand, au point de lire Dante et Goethe dans le texte, puis s'affilie à Cambridge à une société secrète indienne. Puis, il manque le célèbre concours de l'Indian Civil Service pour ne pas s'être présenté à l'épreuve d'équitation, imaginez. Alors on finit par le trouver dangereux sujet, et ce n'est néanmoins ni en beatnik ni en asset chevelu que Sri Aurobindo aborde la lutte nationaliste. Pas du tout, c'est un gentleman britannique distingué. Et lorsqu'à 20 ans, il retrouve l'Inde, il s'y sent perdu, indigné, il écrit « Notre prolétariat » est enfoncé dans l'ignorance et écrasé de détresse. Et après les 13 années donc d'Occident, il va se consacrer 13 autres années à retrouver sa propre tradition, et c'est là qu'il va devenir un grand mystique. Sri Aurobindo était né dans la grande ville de Calcutta, lui, en 1872. C'était le troisième fils du docteur Krishnadan Ghose, G-H-O-S-E, Ghose, un médecin de très grande culture. Et c'est donc, dès son arrivée à Bombay en 1892, à 20 ans, il est saisi par un calme immense. Il se sent calme. Il a beau devenir professeur de français, oui, de français, auprès du Maharaja de Baroda, puis son secrétaire particulier, c'est là le premier contact spirituel que prend avec son pays un garçon qui, à l'époque, se croit agnostique, sinon athée. Et tandis qu'il se lance dans l'activité plutôt franchement révolutionnaire, il apprend la langue, sa langue, en somme le sanskrit. Il redécouvre les textes sacrés, les Védas, les Upanishads. Mais bientôt, cette gymnastique intellectuelle le lasse. Il s'aperçoit que l'intellect peut justifier le blanc et le noir et qu'à toute vérité dite intellectuelle peut être opposée une vérité contraire, hein, aussi justifiable par la raison. Hein. Pensez à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. C'est un peu ça, hein, c'est un peu mêlant ces textes-là. C'est son premier choc. Un autre, Choc, plus humble, se produit. Alors que son frère est tombé malade, en proie à une mauvaise fièvre, surgit un des ces moines, vous savez, les moines errants en Inde, au corps à demi-nu, couvert de cendres. Puis, il y en a tellement en Inde. Et ce moine demande un verre d'eau. Il trace un signe. Il psalmodie une formule sacrée. Puis il donne à boire aux malades. Au frère, là, de Aurobindo. Et quelques minutes plus tard, eh bien, son frère est guéri. Il l'accepte, ce moine, et a disparu. Alors, Aurobindo, sceptique, a vu, lui. Il est intrigué, il veut en savoir plus. Et là, il ne cessera jamais de sa vie de chercher. Et ce premier contact avec le yoga traditionnel n'a rien à voir avec une conversion au sens qu'on l'entend, nous, les Occidentaux. Ce qui a frappé Aurobindo, c'est un pouvoir qui ne porte pas seulement à l'évasion, au rêve, mais à l'aide d'autrui. Il a vu chez ce moine une charité, quoi. L'aide d'un malade. Or, sans négliger ses objectifs de l'indépendance de l'Inde, il est à la recherche aussi de pouvoir. Il a constaté un fait troublant. Il entend le pénétrer au besoin, le répéter. Est-ce Dieu qui en est l'auteur? Il n'en sait rien. Alors il formule seulement cette prière. C'est une belle prière, au fond. Si tu existes, tu connais mon cœur. Tu sais que je ne demande pas la libération, mais seulement la force de soulever cette nation. Et cet élan va marquer de manière indélébile la vie et l'œuvre de ce futur maître spirituel de l'Inde, qu'est Sri Aurobindo. Une attitude de recherche expérimentale, un goût d'utiliser le yoga, non pour son salut individuel, qu'il ira trouver, il ira jusqu'à trouver ça dégoûtant un peu le salut individuel, mais c'est pour les autres, pour l'humanité. Il n'est pas égoïste. Il dit, un yoga qui exige que j'abandonne le monde n'est pas fait pour moi. Évidemment, dans le catholicisme, nous croyons au corps mystique du Christ. Et celui qui se retire est toujours membre du corps mystique et fait jaillir dans le corps mystique des courants de charité, de foi, d'espérance, comme a fait sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Alors c'est donc en pleine action qu'il entreprend ses premières approches spirituelles, puis il trouve une paix qui l'aide à s'accomplir. Et peu avant son arrestation, il a rencontré un premier yogi, Vishnu Bhaskar Lele. L-E accent aigu, L-E accent aigu, c'est curieux, non? Avec qui il passe 3 jours, c'est tout. Et celui-ci déclenche en lui des expériences, ouvrez les guillemets, qui lui font voir le monde avec une prodigieuse intensité, comme un jeu cinématographique de formes vacantes dans l'universalité intemporelle de l'absolu. En somme, le monde devient comme un jeu de cinéma. C'est des formes vides là, dans l'absolu intemporel. C'est un état très étrange. On est loin du christianisme dans un sens. Et cette sorte de première perception de l'illusion du monde, qui est si contraire apparemment à ses convictions, le laisse quelque peu désemparé. Il demeure des mois dans cet état, ce qui ne l'empêche ni d'éditer un journal quotidien, ni de courir les réunions secrètes, ou de prononcer des discours. Et lorsqu'à Bombay, il doit prendre pour la première fois la parole en cet état, il avoue à Lélé, de savoir comment s'y prendre. Alors Lélé lui conseille de ne rien préparer, mais de s'ouvrir seulement à la force du Brahman, qui est un nom de Dieu au fond, afin que l'inspiration lui vienne d'une autre source que le mental proprement dit. C'est comme nous qui prions l'Esprit Saint avant de faire une émission comme celle-ci. Et toute sa vie, Sri Aurobindo va chercher... À partir de ce jour-là, il va chercher à cette source qui n'est pas intellectuelle, la force et l'inspiration de son œuvre. Ce qui lui a permis d'ailleurs de passer chaque jour 12 heures à écrire, de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Puis de déambuler dans sa chambre durant 8 heures pour le yoga. Parce qu'il vivait plutôt enfermé comme un ermite une grande partie de sa vie. Il a écrit, c'est incroyable tout ce qu'il a publié, tout ce qu'il a écrit. Et en prison, il passe là de ce cinéma du monde à l'illusion de sa propre individualité et par là à une conscience de l'identité universelle qui serait Dieu en fait. Alors Aurobindo est un yogi qui s'est mis au service de l'humanité. Et l'acquittement puis la libération de Sri Aurobindo, ses premières approches du yoga, ça lui fait pas quitter pour autant l'action politique. Et il fonde un quotidien bengali, puis un journal de langue anglaise, dont je vous ai déjà parlé. Ça, il place sous la devise de la Bhagavad Gita, la devise c'est « Le yoga est l'habileté dans les œuvres ». L'habileté dans les œuvres, c'est-à-dire de bien faire ce qu'on a à faire. Alors, il y poursuit ses objectifs de non-coopération puis d'indépendance. Mais son regard, il déborde déjà l'Inde, puis se porte sur toute l'humanité. Il arrive à pousser ce cri, qui est le cri au fond d'une sorte de saint. Il ne s'agit pas de se révolter contre le gouvernement britannique. N'importe qui peut faire cela aisément, mais de se révolter contre la nature universelle tout entière, c'est-à-dire contre la bassesse. La bassesse. Alors que peut donc signifier sa révolte? C'est son retour en Inde, ses premières approches du yoga qui ont fait craquer en Aurobindo la conscience qui aurait pu se satisfaire de quelques carrières politiques. Ça a éveillé des exigences beaucoup plus larges, mais toujours confuses. Puis la prison, les persécutions, les déportations ont ouvert devant lui tout un enfer de torture et de souffrance. Et cet enfer, il ne croit pas, on l'a déjà vu à propos de la non-violence, que ça puisse être exorcisé, cet enfer, par une attitude plus ou moins moralisante. Il ne croit pas davantage que les religions se proposent sérieusement, à son avis, de détruire l'enfer de l'homme, ou qu'ils en aient même les capacités, les religions. Parce que pour lui, les religions ne correspondent pas à autre chose qu'à un vieux fiasco. C'est pas très gentil pour nous, hein? Auquel il ne se trouve pas disposé à donner son appui. Puis il y a plus, il soupçonne que ces enfers-là sont des vérités étouffées. Fidèle à sa grande tradition indienne, il place le diable au cœur de Dieu, car, dit-il, si le divin est tout et origine de tout, comment le situer ailleurs qu'en lui? Et c'est là la grande erreur de l'hindouisme. C'est de confondre Dieu avec le mal. Et nous allons voir tout à l'heure comment il petit à petit va s'en dégager et comment il va fonder un ashram. Il va participer aussi à la fondation de Roville dans un sens puisqu'il en sera à l'origine au fond de son cœur. On en arrive au moment à se demander si Aurobindo va se placer comme une espèce de commentateur un peu simpliste de Nietzsche, par-delà le bien et le mal, mais non. Il voit plutôt dans l'erreur une porte par où la vérité peut entrer dans ce qu'il écrit, les divinités violentes et obscures qui ont quitté le bras de l'un, c'est-à-dire de Dieu, nos mauvais anges au fond. Ça ressemble, il est influencé en partie par le christianisme, il faut dire aussi que dans l'Inde, il y a beaucoup de parallèles à faire avec le christianisme, sous certains rapports. Et puis, il dit à un moment donné, vous ne faites plus votre yoga pour vous seul. Vous faites le yoga pour tout le monde, sans le vouloir, automatiquement. Un peu comme quand on prie, ou qu'on s'améliore, ou qu'on se confesse ses fautes pour se transformer, ou quand qu'on fait n'importe quoi, nous chrétiens, nous le faisons pour tout le monde. Car un chrétien qui s'élève, soulève le monde, élève le monde. Alors, la voix qui lui avait demandé, n'est-ce pas, de se rendre à Chandernagor, dont je vous ai parlé, ne reste pas longtemps silencieuse. Un 2 mois ne se sont pas écoulés qu'elle l'invite, cette voix, à se rendre à Pondichéry. On peut y croire ou ne pas y croire, mais enfin, c'est ce qu'il prétend. À ceux qui pourraient être surpris de ce phénomène de la voix, on peut dire qu'il est fréquent. Quiconque entreprend une vaste expérience intérieure ou à son insu se trouve déjà dans l'attente de cette voix. C'est Jung qui a entrepris l'étude psychologique de cette voix. Chez Aurobindo, le phénomène semble avoir joué un rôle capital. Et on voit souvent cette voix, évidemment, dans la tradition catholique, en particulier chez les saints, mais aussi chez beaucoup de gens. Et durant son séjour en prison, on sait, par exemple, qu'Aurobindo a entendu constamment dans sa méditation la voix de Vivekananda. Il semble d'ailleurs qu'Aurobindo ait considéré ce phénomène en rapport avec un mode de révélation, d'après lui, direct. Alors, contrairement à l'habitude indienne, Sri Aurobindo, qui est le père du yoga intégral, on peut dire, ne fut jamais en contact avec quelques gourous ou maîtres spirituels. Bon, il a été 3 jours là, avec le Bhaskar Lélé dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais 3 jours, hein, on l'a vu. Il ne sera plus jamais disciple. Il précisera plus tard que même les Védas ne lui servirent jamais de guide et ne firent que confirmer ses expériences déjà acquises. Et ces expériences vont devenir phénoménales, et le voilà dès lors quelque peu en marge de la tradition indienne. Il est un peu comme un moderniste, plus proche de Freud ou de Jung, d'ailleurs, que de Teilhard de Chardin. Mais si Teilhard, en effet, pense et spécule, ou tente une espèce de réconciliation de la pensée religieuse puis de la pensée scientifique, hein, Teilhard demeure sur le plan de la pensée, mais ne propose nulle manière nouvelle d'accéder au divin pour ce qui est de Aurobindo. Nul chemin nouveau d'exploration ou d'expérience spirituelle. C'est par quoi commence Aurobindo, hein? Tout en reconnaissant l'importance qu'a pu avoir dans le passé, puis aura encore dans l'avenir, cette grande institution indienne du gourou, lui s'en passe pour lui-même, puis proclame l'existence du gourou interne. Un peu comme les protestants parlent de l'Esprit Saint en eux, qui les guide, qui les gouverne, et ils se fient à ce qu'on appelle le libre examen. Nous aussi, nous croyons à l'inspiration de l'Esprit Saint, mais toujours sous la conduite de l'autorité du pape en particulier, mais des autorités ecclésiastiques dans nos diocèses, et nous sommes toujours prêts à obéir, dans un sens, au on peut discuter, nous sommes un peu libres quand même dans l'Église catholique, mais c'est pas la même chose. Chez les protestants, ça peut, et ça va malheureusement jusqu'à la subdivision des grandes églises protestantes, et on dit qu'aujourd'hui, il y a entre 20 et 30 000 églises protestantes diverses. C'est peut-être exagéré comme chiffre, hein? Alors, le modernisme de Sri Aurobindo, lui, ne résulte pas, finalement, d'une occidentalisation de l'âme, puis de la pensée. C'est pas tellement l'influence de l'Occident. C'est pas qu'il a des mépris pour les grandes richesses spirituelles de son pays. Il va d'ailleurs toujours conserver, vis-à-vis de la pensée occidentale, une espèce de distanciation critique. En 6 ans, en tout cas, il écrit une œuvre immense et profonde de penseur. Lorsqu'il arrive à Pondichéry, dans l'état de Madras, un état misérable, il est en proie aux provocations des autorités britanniques qui tentent d'obtenir son extradition. Bien, il se lance dans l'étude des écritures hindoues. On dirait, nous autres, l'étude de la Bible, mais lui, c'est l'étude de leur Bible à eux, qu'il n'avait connue jusque-là que par des traductions anglaises. Puis là, il l'aborde cette fois dans le texte sanskrit. Ça existe en français. Moi, j'en ai des traductions des textes hindous. C'est souvent très riche et très beau, hein? Et c'est une révélation pour lui. Et alors surgit l'incident qui va permettre son œuvre. Il arrive à Pondichéry, un écrivain français du nom de Paul Richard. Or, Richard est impressionné par la pensée de Aurobindo. Il fonde avec lui une revue bilingue, Arya. Puis il l'invite à exprimer sa philosophie. Voilà que de 1914 à 1920, sort une œuvre gigantesque. La vie divine dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est son ouvrage philosophique fondamental. La synthèse des yogas, les essais sur le Bhagavad Gita dont je vous ai parlé, le secret du Veda, l'idéal de l'humanité humaine, le cycle humain, etc., etc. Il dit, j'ai laissé le pouvoir, P avec un P majuscule, le pouvoir supérieur travailler, et quand il ne travaillait pas, je ne m'efforçais pas du tout. C'est dans le silence mental que j'écris. Et ce que j'écris me vient d'en haut, tout formé, dit-il. Donc, il parle d'une inspiration personnelle. En 1926, donc pas longtemps après cette ce partage de vie ou d'influence avec les Richard, monsieur et madame Richard, eh bien, il se retire dans une solitude complète. Et durant 24 ans, oui, 24 ans, jusqu'à sa mort, en 1950, le 5 décembre, il demeure dans sa chambre, n'en sortant que pour des circonstances solennelles. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 1901, alors qu'il avait 29 ans, Aurobindo s'était marié et sa femme s'appelait Mrinalini Devi. Et lorsqu'il s'engagea dans les voies son yoga, il a voulu l'y entraîner, mais elle a refusé. Et Aurobindo est demeuré seul. Et en 1914, toutefois, on l'a vu, le Paul Richard est venu à Pondichéry. Lui, il était accompagné de sa femme, une Française d'origine juive. Elle va s'y faire bientôt connaître sous le nom de Mira Alfassa. Elle est morte, oh mon Dieu, elle est morte très âgée, en 73. Il y avait eu un grand article dans le Time Magazine, The Mother Departs. Elle est morte à 95 ans. Et alors, cette Française d'origine va rester là parce que quand Richard, son mari, va être appelé dans l'armée lors de la Première Guerre mondiale, il va quitter Pondichéry, il ne reviendra plus jamais. Et sa femme, il revient seul en 1920, elle s'y installe pour toujours. Puis en 1926, le Aurobindo lui confie donc la direction totale de l'ashram, dont elle devient la mère. Et Mira Alfassa a poursuivi l'œuvre entamée par Aurobindo jusqu'à sa mort. Ouais, jusqu'à sa mort, à 95 ans. C'est une correspondance étrange qui a une liaison étrange entre Aurobindo et la mère. Hein? En Inde, la présence dans les ashrams d'une femme appelée la mère, toutefois, n'a rien d'exceptionnel. C'est pas insolite, ça. Elle correspond, pour une part, aux doctrines tantriques qui ont personnifié toujours l'énergie divine, hein? La Shakti, comme on dit, sous les aspects d'une déesse ou bien d'une femme réelle. Et c'est avec elle que la communauté née à Pondichéry a pris un développement extraordinaire et près de 1500 personnes, hommes et femmes, de toute nationalité, de tout âge, dont 500 enfants environ, s'y groupent dans une surprenante entreprise. Et c'est là que, durant des années, se déroulent les expériences par lesquelles Aurobindo et la mère vont entendre vérifier leur yoga jour et nuit. Plus scrupuleusement, dit-il, qu'un savant ne vérifie sa théorie et sa méthode sur le plan physique. Et c'est de là que viennent tous ces écrits, qui sont des analyses extrêmement intéressantes. Son objectif est d'une discipline non plus tournée vers le ciel, l'au-delà ou l'évasion, mais vers l'apparition d'une humanité supramentale, c'est ça qui l'habite. Mais cette espèce de surhomme, entrevue par Aurobindo, n'a rien à voir, il a tenu à le préciser, avec une espèce de brute blonde ou une brute noire, là, n'est-ce pas ça du tout, là, dévorée par une espèce de volonté de puissance que des Hitler ou d'autres ont cru tirer là, de la pensée de Nietzsche, ce grand philosophe allemand. Hein. Il s'agit plutôt d'un être cherchant à ouvrir, c'est très important, ouvrir cette volonté de puissance au divin. Ça rejoint, quoi, la grande pensée chrétienne. Et à la mettre à son service pour la transfiguration des couches les plus archaïques, comme il dit, c'est-à-dire les vieilles couches de l'homme et du monde. C'est un peu ce que dit, quand on dit dans le christianisme, qu'il faut abolir le vieil homme pour avoir un homme nouveau. Alors, de là des techniques chez Aurobindo, des techniques différentes des yogas traditionnels. Parce que je ne vous analyse pas le yoga traditionnel, c'est trop complexe. Mais c'est intéressant quand même. Hein? Alors, est-ce une utopie, un délire narcissique, la science-fiction de sa part? On imagine jusqu'à quel point un dialogue avec la psychologie des profondeurs serait utile dans tout ça. Ça n'a pas été entrepris. Aurobindo a jugé, d'ailleurs avec hauteur, l'œuvre de Freud. Il semble avoir mal connu celle de Jung. Et c'est sur ce plan de la transformation physique puis de l'inconscient qu'il a buté. Il s'est opposé à toute analyse psychologique. Il a procédé dans son cœur. Et déjà, son idéal de la réalisation spirituelle dans les Védas se trouve être la conquête de la vieillesse et de la mort. Mais dès 1938, Aurobindo traverse une première crise physique. Il tombe, il se fracture le fémur, et le 5 décembre 1950, il succombe à une crise d'urémie. Et à la surprise des médecins, c'est étrange, hein, il sort toutefois à plusieurs reprises d'un coma profond où il était tombé, au point que ses disciples parlent, toujours aujourd'hui, d'un retrait yogique, conscient, hors d'un instrument corporel trop endommagé. C'est très étrange, c'est comme si son âme, on pourrait dire, survivait à son corps qui était, pour ainsi dire, mort. C'est très étrange et très curieux. Mais enfin, c'est ce que l'on dit dans les milieux d'Aurobindo à Pondichéry, aujourd'hui même, encore. Et c'est très intéressant quand même, c'est un phénomène d'une sainteté particulière à l'Inde. Alors donc, le 5 décembre 1950, à 78 ans, Sri Aurobindo meurt. Mais 2 jours et demi après qu'on eut obtenu le permis d'inhumer, bien alors que dans des circonstances analogues, dans des pays comme où il fait très chaud, dans des conditions climatiques de l'Orient, on connaît ça, le corps noircit rapidement avant de se décomposer, eh bien le corps de Sri Aurobindo a conservé cette belle couleur d'or blanc qui l'avait caractérisé toute sa vie, ce teint particulier. Et la mère, cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, parle d'une concentration de lumière supramentale. Elle fait retarder l'enterrement, et celui-ci n'aura lieu que le 9, donc 4 jours plus tard, après que cette lumière y ait intégralement subsisté pendant 90 heures. C'est ce qu'on raconte. Alors, dans une lettre à Françaisie, le secrétaire général français de l'ashram, Philippe Saint-Hilaire, l'un des plus proches collaborateurs de Sri Aurobindo puis de Mer, explique que l'effort de transformation exigé par le yoga intégral de Sri Aurobindo aurait atteint les couches les plus profondes de l'inconscient. C'est un domaine, ajoutait-il, qui n'avait jamais été touché par la lumière supramentale. Lumière avec un L majuscule. Il ajoute, obscur et rebelle, sa transformation n'avait jamais été envisagée, même par les yogis les plus hardis. Alors, est-ce que ce serait un échec? Non, car selon la mère, la lutte devait continuer, puis la vie terrestre de Aurobindo ne serait que le point de départ d'une grande aventure, une aventure immense en laquelle l'humanité entière s'engagera, tôt ou tard, croit-il. Les disciples de Aurobindo. Il y en a à Montréal, c'était répandu à travers le monde. Et quoi qu'on pense d'une pareille vie ou d'une pareille œuvre, on ne peut douter qu'elle se trouve parmi les plus vastes et puis les plus toniques de notre temps. Moi, personnellement, en tant que catholique convaincu, j'ai du respect pour ces gens qui, en dehors du christianisme, cherchent, avec, il me semble, beaucoup de sincérité. J'ai beaucoup de difficultés à mettre en doute la sincérité de Sri Aurobindo. Parce que loin du pessimisme des gens qui nous prêchent l'apocalypse et puis tous ces sectes invraisemblables, bien, les recherches d'Aurobindo sont vraiment intéressantes. Elles témoignent de cette poussée, je dirais, une poussée dorée, de cet enthousiasme lumineux, propre aux grands bâtisseurs. Aurobindo annonçait que l'âge de fer est fini. Il disait ça dans son grand poème, Savitri, c'est un poème immense. Pour cette seule promesse d'une conscience, ayant pressenti au fond les réconciliations dont nous avons besoin, comme l'écrit si bien Raymond de Becker dans ce texte qui m'a inspiré, eh bien, pour cette seule promesse d'une conscience, ayant pressenti les réconciliations dont nous avons besoin, on a besoin de se réconcilier sur cette terre, hein, eh bien, les noces, ou le mariage, si vous voulez, de la science et de la foi, de l'Orient et de l'Occident, de la terre et du ciel, du passé et du futur, eh bien, ce sage de Pondichéry, Sri Aurobindo, mérite notre attention. Oui, il mérite notre attention. Il serait ridicule de rejeter du revers de la main les efforts des humains sincères, nous chrétiens. Sa vie spirituelle, son but, bien, s'appuyait sur des vérités que nous pouvons constater. Que la civilisation a créé plus de problèmes qu'elle n'en résout souvent. Que la société moderne cherche encore un but à son progrès. Pourquoi tant de progrès? On ne le sait pas encore. Il disait, l'homme a besoin d'un supplément d'âme. On pense à Bergson. Une spiritualité véritable et complète dans la société ne considérera pas l'homme simplement comme un être mental, vital et corporel, mais comme une âme qui s'est incarnée pour s'accomplir sur la terre et pas seulement au-delà, dans un ciel, qu'après tout, elle n'avait pas besoin de quitter parce qu'il croit que l'âme quitte le ciel. On peut lire ces choses-là avec beaucoup de discrétion, mais on peut apprécier, apprécier la destinée du mental, ou si vous voulez de l'âme, du corps et de la vie, dans cette spiritualité véritable, sera de spiritualiser afin de devenir les membres visibles de l'Esprit avec un grand E. Comme nous, catholiques, nous voulons être des membres de l'Esprit-Saint. Il voudrait que les gens deviennent les instruments lucides de la manifestation de l'Esprit et qu'eux-mêmes soient vraiment des spirituels, des illuminés, des éveillés, quoi, de plus en plus conscients et parfaits. Car puisqu'elle reconnaît pour vrai que l'âme de l'homme est entièrement divine en son essence. Alors là, il y a une divinisation de l'âme qui rejoint certaines pensées du Nouveau Testament. C'est très délicat, très très délicat. Cette spiritualité considérera l'homme collectif comme elle considère l'homme individuel, comme une forme d'âme de l'infini, une âme collective, innombrablement incarnée sur la terre. Alors c'est très délicat et très dangereux. Son credo est souvent passionnant, mais je ne le recommande pas. Par contre, il y a dans les textes de la mère, celle qui lui a succédé, un très beau livre, c'est un livre assez considérable, de plus de 500 pages, « Prières et méditations ». Et je relève cette belle prière qui est datée du 24 novembre 1931. C'est une des belles prières, des plus belles prières que j'ai lues de ma vie. Et je termine donc l'émission avec cette prière. « Ô mon Seigneur, mon doux Maître, pour accomplir ton œuvre, j'ai sombré dans les profondeurs insondables de la matière. J'ai touché du doigt l'horreur de l'inconscience et du mensonge, lieu d'oubli, obscurité suprême. Mais dans mon cœur était le souvenir, et de mon cœur jaillit l'appel qui parvint jusqu'à toi, Seigneur, Seigneur, tes ennemis semblent triompher de toutes parts. Le mensonge est le souverain du monde. La vie sans toi est une mort, un enfer perpétuel. Le doute y a pris la place de l'espérance, et la révolte celle de la soumission. La foi y est tarie. Est disparu, quoi. La gratitude n'est pas née. Les passions aveugles, les instincts meurtriers, la faiblesse coupable ont voilé, étouffé ta douce loi d'amour. Seigneur, permettras-tu à tes ennemis le mensonge, la laideur, la souffrance de triompher? Seigneur, donne l'ordre de vaincre et la victoire se produira. Je sais que nous sommes indignes. Je sais que le monde n'est pas prêt. Mais je crie vers toi, dans ma foi absolue en ta grâce. Et je sais que ta grâce nous sauvera. Ainsi, ma prière s'élança vers toi. Et des profondeurs de l'abîme, je te vis dans ta rayonnante splendeur. Tu parus et tu dis, ne perds pas courage, sois ferme et confiante, je viens. C'est une très belle prière de la mère, comme on l'appelle, de Pondichéry.